4% des Français qui feraient de l'apnée du sommeil, un chiffre pourtant sous-estimé selon l'association R53, l'association des insuffisants respiratoires de la Mayenne. À l'occasion de la journée mondiale du sommeil vendredi dernier, elle était présente toute la journée au magasin Malitry à Laval pour faire de la prévention autour de l'apnée du sommeil et notamment présenter les appareils nécessaires pour bien dormir. Un syndrome qui peut aussi toucher les enfants, comme l'expliquent les membres d'R53.
Jean-Michel Ney, je suis le président de l'association R53, association des insuffisances respiratoires de la Mayenne. Donc, si vous voulez, on regroupe ceux d'atteinte de l'apnée du sommeil, de la BPCO. Alors, BPCO, alors bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'asthme et d'autres maladies respiratoires. Mais c'est vrai qu'on est plutôt plus sur l'apnée du sommeil.
Alors moi c'est Gisèle Mercier, donc je fais de l'apnée du sommeil depuis mai 2010, donc ça fait 12 ans que je suis appareillée. Je suis rentrée dans l'association en 2011 et puis je suis dans le bureau et je suis la secrétaire là aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui on est la journée nationale du sommeil, donc généralement on essayait de faire quelque chose si vous voulez pour sensibiliser l'ensemble de la population, enfin là de la Mayenne entre autres, de parler du sommeil. Donc là, on a été invité par le magasin Malitry, qui on avait déjà fait une sensibilisation aussi sur le sommeil au mois de novembre. Ça avait bien plu à la responsable et elle nous a demandé, dans le cadre de cette journée nationale du sommeil, de refaire cette manifestation, si vous voulez. Aujourd'hui, le thème national sur la journée du sommeil, c'est l'apnée du sommeil chez les enfants. Pas mal de pédiatres alertent justement l'ARS et les autorités médicaux pour effectivement prendre ça en considération, parce que c'est vrai, quand on pense apnée du sommeil, on pense plutôt à des personnes d'un certain âge, qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors en ce qui concerne les enfants, il y a plusieurs signes qui pourraient alerter au niveau des parents. Si un enfant ronfle, par exemple, si un enfant est énormément turbulent et qui manque, quand un enfant manque de sommeil, il est souvent turbulent, etc. Un manque de concentration, c'est des signes qui pourraient penser à un peu de l'apnée du sommeil. Alors pour un enfant, ça peut venir des végétations ou des amygdales un peu trop grosses. Ça peut venir d'autres phénomènes qui, en grandissant, peut aussi s'atténuer. Mais on veut alerter justement sur le sommeil des enfants, qui est quand même quelque chose d'important. C'est très difficile de déterminer, puisque je pense qu'on n'a pas encore pris une conscience réellement qu'un enfant peut faire de l'apnée du sommeil. D'ailleurs, vous avez été surpris quand on m'avait posé la question. Et je pense que dans la population, c'est un peu ça. Quand on voit qu'il faut un appareil pour dormir, je pense que c'est un frein aussi, quelque part, pour un jeune.
À partir du moment où on a été diagnostiqué avec ce syndrome d'apnée du sommeil, comment ça se manifeste déjà? Enfin, pour moi, personnellement, c'est mon mari qui s'est rendu compte que je faisais des pauses respiratoires la nuit. C'est-à-dire que je ronflais beaucoup et puis je faisais des pauses respiratoires qui pouvaient durer 10, 15 secondes et plusieurs fois dans la nuit. Et on a alerté le médecin traitant qui m'a envoyé tout de suite faire ce qu'on appelle une polysomnographie, c'est-à-dire l'étude de notre sommeil. On va à l'hôpital et puis on a des capteurs un peu partout, hein, et on passe une nuit. Et c'est là qu'ils peuvent se rendre compte si on fait des apnées, combien on en fait et quelle est la qualité de notre sommeil. Quand le pneumologue est passé dans le matin, il m'a dit « Vous faites de l'apnée ?» J'en faisais 35 à l'heure. À partir de 30, c'est sévère. Donc, on va vous laisser une machine, on va vous appareiller. Donc ça, c'est tout un processus, c'est vrai. Mais là où je me suis rendu compte des symptômes, c'est qu'un mois après avoir été appareillée, ma vie avait complètement changé. Avant, j'étais fatiguée quand je me levais, j'avais très mal à la tête. Il me fallait 2 ou 3 heures pour commencer à démarrer ma journée alors que je n'étais plus en activité professionnelle. Syndrome dépressif, et au bout d'un mois, tout ça, ça a été, je dirais, balayé. Chez moi, c'était flagrant. Mais après, c'est l'acceptation de la machine. On a un prestataire qui vient, qui nous donne des explications sur la machine, mais On n'a pas beaucoup d'informations. Donc moi, je suis allée sur des forums, sur Internet, où j'y ai lu beaucoup de choses positives. Ce qui m'a permis de mieux appréhender la PPC, quoi, la machine à pression positive continue. Et puis après, le prestataire, on le revoit au bout d'un mois, après c'est tous les 3 mois, enfin on a un suivi. Et puis le fait aussi de rentrer dans l'association au bout d'un an, après ça aide et ça... Mais tout le monde n'accepte pas de la même façon la machine. Ça a une incidence aussi, c'est sur... parce que la première machine que j'ai eue faisait beaucoup de bruit. Donc ça perturbe après le sommeil du conjoint. Les machines qu'on a aujourd'hui sont vraiment très silencieuses. Après, c'est le masque qui peut fuir, qui fait du bruit. Mais moi, je sais que je ne peux pas m'en passer. Et les risques quand même que si on ne traite pas cette PPC, c'est le premier risque, c'est l'accident vasculaire cérébral, parce que quand on fait des apnées du sommeil, le cerveau n'est plus du tout irrigué. Donc c'est le fait aussi qu'on a des phases d'endormissement dans la journée, donc ça peut être un accident de la route. Cette sensation de fatigue, c'est vraiment... Moi, je pense que je vais l'avoir à vie. Aujourd'hui, elle fait partie de moi. Bon, il y a des fois, ça se passe mieux, des fois, ça se passe moins bien, parce que, c'est en lien avec le masque, Mais dans la journée, on vit comme tout le monde, quoi. Ça ne se voit pas. Par contre, moi, je sais que le moindre déplacement, même pour une nuit, je l'emmène avec moi, parce que je sais que je vais ronfler. Et que je vais gêner ou mon conjoint ou... Voilà.
Et puis, il y a aussi une chose que je dis toujours, moi, aux adhérents qui viennent et qui ont été diagnostiqués au niveau de l'apnée, c'est qu'il ne faut pas hésiter à rappeler les prestataires. Parce que ce qui est important, c'est le masque. Le masque, il faut qu'on soit absolument, à l'aise avec le masque. Alors, ce n'est pas évident d'avoir quelque chose au niveau de la bouche, avoir un harnais, etc. Mais par contre, si on est bien, on l'acceptera plus facilement. Ça, c'est une première chose. Il y aura moins de fuite. Alors, quand on parle de fuite, c'est lorsque c'est une pression continue de l'air. Donc, si vous voulez, c'est comme un tuyau où quand il y a une fuite sur un tuyau, vous entendez le pshhh. Donc voilà, en pleine nuit, ça peut réveiller, etc. Donc si le harnais, si le masque est bien à votre morphologie, je dirais qu'à la force de le mettre, etc., vous ne le sentez plus, quoi. Voilà. Mais si vous sentez mal à l'aise, moi, j'ai mis du temps. On avait des problèmes de peau, problèmes de yeux aussi, les yeux qui se sèchent parce qu'il suffit que l'air s'échappe. Voilà, etc. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Maintenant, je mets des gouttes dans les yeux, un genre de gel pour justement éviter l'assèchement des yeux. Il y a des personnes qui se disent dépressifs ou qui ont un sentiment... de dépression, de mal-être, etc. Mais quand on s'en aperçoit pas, mais quand on dort très très mal, c'est des fois, c'est un aussi des signes. Au lieu de prendre des comprimés contre ce genre de choses-là, tester le sommeil peut peut-être des fois... Moi, c'est comme ça que je l'ai senti, quoi.
On a la sensation d'avoir bien dormi. Sauf que les apnées, elles arrivent dans le sommeil profond, le plus réparateur. Et c'est là qu'on est sans cesse réveillé. Donc finalement, c'est un sommeil qui n'est pas réparateur. Alors même si on prend un traitement, mais si on n'a pas traité l'apnée du sommeil, de toute façon, on aura toujours le même problème, quoi.
Il y a l'apnée du sommeil qui, effectivement, qu'on arrête de respirer. Mais il y a aussi un phénomène... que le corps se défend aussi un petit peu et on a ce qu'on appelle des micro-réveils. Ça veut dire qu'on respire toujours, mais on est réveillé sans s'en apercevoir, un petit peu comme l'apnée, mais par contre moins grave dans le sens que le cerveau est toujours irrité. Que moi, j'étais à la limite de l'apnée par rapport à un appareil, mais je faisais tout autant de micro-réveils. Ce qui veut dire que mon corps se réveillait pour éviter l'apnée. Ça revient à mal dormir en règle générale. Voilà. Si vous dormez par exemple sur le dos, la langue elle a tendance à boucher, si vous voulez, les voies respiratoires. Donc si ce n'est que ça, c'est éviter de dormir sur le dos, quoi. Au niveau du travail, la concentration est quelque chose de très très important. Et c'est vrai que c'est un signe, quand il y a des personnes qui ont du mal à se concentrer dans leur travail, etc., c'est qu'il y a vraiment un manque de sommeil. L'association R53, on fait une permanence le troisième lundi de chaque mois à l'hôpital de Laval, dans la maison des usagers, si vous voulez. Les buts principaux, d'abord représenter, c'est vrai que quand on est diagnostiqué apnée du sommeil, moi j'étais assez content d'avoir une association, parce que ça permet de discuter avec des personnes qui ont eu la même approche. Ça veut dire qu'approcher avec un appareil, dormir avec un appareil. Deuxièmement, qu'il y ait quelqu'un qui vous dit, bah, attends, si ça ne correspond pas, si ton masque ne va pas, n'hésite pas à appeler le prestataire. Parce que c'est vrai que les prestataires sont à notre service et non pas l'inverse. Avec les personnes qui sont là, bah, on essaye d'entretenir un petit peu avec des quelques manifestations. Là, on va faire un buffet campagnard à l'huisserie où il y aura un thème. Par exemple, il y a une personne qui fait partie de notre association, qui est apnésique, qui est diabétique, etc. et qui a fait sa Jacques de Compostelle. Puisque son médecin, enfin c'était déjà un sportif au départ, son médecin dit continue à faire du sport, etc. Il va nous expliquer toute son expérience. Donc voilà, le 14 mai. J'aimerais bien rajeunir, si vous voulez, notre association. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a une moyenne d'âge qui est un petit peu élevée, si on peut dire. Mais on est quand même pas mal interrogé par des jeunes, quand même, qui sont confrontés à ce genre de choses. Alors, est-ce qu'ils vont aller à l'association? C'est autre chose. Effectivement, on intervient Là, on a été appelé par l'Institut de formation des infirmières et des aides-soignants à Mayenne. Donc là, on présente un petit peu... non pas l'apnée du sommeil, parce que eux, ils l'ont eu en formation avec, ils savent qu'est-ce que c'est, mais du côté de ceux qui le subissent, comment on l'a accepté, comment on s'est fait diagnostiquer, quel accompagnement on aurait voulu avoir ou qu'on a eu, voilà. Donc on essaye d'apporter ce qu'on appelle le témoignage de notre vécu. Donc on fait ça, et puis à toute manifestation que l'organisation de Laval qui aurait besoin, en septembre, quand ils réunissent toutes les associations, ou le contrat santé de Laval, on est invité. Donc voilà, dès qu'on peut essayer de faire connaître l'association, l'apnée du sommeil. Alors, au niveau du mois sans tabac au mois de novembre, on parle de la BPCO, puisque c'est vraiment la maladie, entre autres du tabac en grande partie. Donc là, on essaye de faire un point sur la BPCO.
Et pour n'importe quel sujet dont on vient de parler dans cette interview, vous pouvez contacter l'association qui compte aujourd'hui 70 adhérents en appelant le 06 09 73 69 20 ou bien en envoyant un mail à assor53@gmail.com.